anciens, les anciens Mercure, les anciennes intelligences, les anciennes couronnes de votre âme que vous avez acquises au prix de des vies passées et par conséquent, non seulement des joies, mais des épreuves et des larmes du passé. Que votre soleil dans votre thème, c'est l'ancien Mercure. Et qu'il y en a trois d'anciens Mercure dans un soleil, il y en a un par trois, par axe. Il y en a trois cachés les uns dans les autres. Ceci serait l'occasion d'une astrologie plus ésotérique que je me propose de vous exposer cet automne si j'ai un auditoire qui est qualifié et qui désire le suivre. Car je veux aller l'année prochaine, l'automne prochain, je compte beaucoup entrer dans une astrologie de plus en plus abstraite. De plus en plus abstraite, où je laisserai complètement de côté les classes, ce qu'on appelle le courant de leçons d'astrologie. Je ne peux pas m'amuser, moi, à donner débiter les nomenclatures d'aspects astrologiques avec une planète dans un signe, dans une maison, ça fait ci, ça fait ça. Ça, c'est pour des cours, si l'on veut, des leçons particulières. Et il y a, Dieu sait, assez d'astrologues qui peuvent très bien faire ça. Non, j'ai un message à donner, je le sais. Et ce message, je l'ai donné déjà en petite partie, mais je n'ai encore pas dégagé toute la profondeur du message. Et j'attendais justement de créer un certain, de me faire connaître, je veux dire, de connaître l'auditoire parisien dont j'étais capable, et graduellement, et de préparer le terrain pour lui lancer certaines choses à l'heure voulue. Et je crois que l'heure va sonner pour ça l'automne prochain. Déjà là, dans cette idée, que dans les trois axes de les trois axes du monde, donc de la Terre, donc de nous, il y a trois mercures secrets. Non seulement trois soleils, mais trois mercures. C'est déjà une idée. Donc, le soleil, dans le thème, c'est ce que je disais la semaine dernière, dans l'horoscope, vous n'êtes pas l'horoscope. Vous êtes le soleil et vous êtes son intelligence, son enfant, le mercure, qui est né, lui, du mariage de vous-même, votre âme, et essentiellement de la lune. Il n'est pas seulement à vous, mais qui est à tous. C'est la première combinaison que vous avez avec le nom de soi, c'est avec la lune que vous l'avez. C'est les matrices de la lune. Et vous êtes ce soleil. Et parce que vous combinez votre être avec le nom de soi, qui est le mouvement lunaire, vous créez en vous, vous engendrez l'intelligence. Et puisque l'intelligence va être la condition sine qua non du développement de votre âme, il n'y aura pas de développement de votre âme sans intelligence, il n'y a rien à faire. C'est le mercure, ça. Et il faut comprendre ce que c'est que l'intelligence, quelque chose de colossal. Quelle intelligence, puisque ça va être la couronne de votre soleil, ça va être la lumière vraie du soleil. Et que vous pensez que le soleil, c'est l'ancien mercure, alors vous comprendrez tout de suite beaucoup mieux pourquoi toutes les planètes sont dans le soleil, aussi bien qu'elles sont en dehors du Soleil. Dans l'horoscope, les planètes sont externes au Soleil, parce qu'elles représentent les fonctions de liaison par le battement de 12 champs d'opération, qui sont les 12 maisons, le battement par lequel votre Soleil va respirer. Et il va respirer par un poumon, et le poumon, c'est Mercure, puisque d'ailleurs, dans le régime du corps, tous nos poumons sont régis par Mercure. Le Mercure des génocides. Donc la respiration, et l'expiration et l'inspiration va se faire par le mercure. Et ça, et respirer quoi? Respirer où? Et expirer où? Ça va être dans des maisons qui vont être régies par les planètes externes au soleil, celles que vous voyez dans le thème. Mais pour les planètes externes du soleil, il y a celles qui sont internes au soleil. Et la chose est tellement criante de vérité à plusieurs points de vue, mais je vous en donne un exemple frappant, et voilà pourquoi j'ai fait faire ce dessin. C'est que, quand vous avez une planète dans le ciel, c'est divine, vous la voyez, et en ce soir, nous voyons très bien le mouvement de la Lune, et nous voyons qu'elle s'approche en ce moment-ci, je crois, oui, elle est dans la Vierge, la Lune. Et bien, justement, elle approche de Jupiter. Et Jupiter, demain, elle sera en conjonction avec Jupiter, Et ce soir, Jupiter est magnifique dans le ciel, au-dessus du parc Monceau. Bon, eh bien, vous voyez Jupiter dans le ciel. Et vous dites, voilà une planète. Ah. Donc vous dites, c'est un attribut du Soleil, un satellite du Soleil. Bon. Mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, que la planète que vous voyez n'est que une des extrémités, un des termes, une équation, si vous voulez, ou d'un rapport. C'est-à-dire que si cette planète est projetée comme une extension solaire, puisqu'elle lui appartient, elle est nécessairement, cette planète, aussi dans l'astre qui est la tienne. Car que ferait Jupiter sans le Soleil? La puissance, la position de Jupiter, sa stabilité, une partie de sa souveraineté, de son domaine, c'est précisément que Jupiter est enraciné, littéralement enraciné, dans le Soleil. Voilà donc le Soleil qui va jusqu'ici, maintenant nous sommes dans le Soleil. Tout ceci, ce n'est que le Soleil, ceci, ce n'est que le Soleil, de nouveau. Ceci, ce n'est que le Soleil, c'est tout ce que j'entends centrer, sur quoi me centrer. Ceci, c'est votre Soleil. Et alors, vous avez le Mars intérieur au Soleil sur sa zone, et alors vous avez le Mars extérieur au Soleil sur sa zone. Mais ce Mars extérieur, c'est celui que vous mettez dans le thème. Mais vous ne mettez pas celui-là dans le thème, il est sous-entendu. Il est sous-entendu. Le Jupiter extérieur, vous l'avez dans votre thème. Vous le voyez dans le thème, c'est l'agent de liaison avec le monde qui n'est pas vous. Mais non pas le Soleil. Et pour avoir un Jupiter extérieur, bonté divine, il vous en faut intérieur. Les deux pôles, les deux termes. Une planète a toujours deux termes. Sa position propre est un terme du Soleil. Jupiter représente dans l'extérieur un des termes du Soleil, mais à l'intérieur du Soleil, il faut l'autre terme. Autrement, la planète est inexistante. On ne la conçoit pas, on ne conçoit pas comment elle peut être. Donc tous les astres sont internes au Soleil, et puis ensuite, il y a l'astre extérieur dans une position qui est correspondante exactement à celle qui est là, dans les zones intérieures du Soleil. Mais qui dans l'intérieur du Soleil sont des zones très, très réelles, qui se distinguent les unes des autres, comme les organes du corps se distinguent les uns des autres, et pourtant, où allons-nous dire que commence un organe et où il finit? Tout ça joue les uns sur les autres, et il le joue tellement bien que la liaison est tellement fondante d'un organe à l'autre que c'est vraiment la propriété de Vénus dans toute sa gloire. Car Vénus nous montre comment aucun autre principe dans l'univers, comment l'homme n'est pas une machine, que la vie n'est pas une machine, que ce n'est pas une mécanique, un squelette que l'on fait plier avec des fils de fer, que c'est une unité totale, puisque vous ne savez pas dans votre main l'endroit où le doigt commence, où la main commence, où l'articulation commence. Tout ça est lié. Vous sentez vos articulations par la mécanique osseuse. En dehors de ça, vous ne sentez rien et votre corps est une unité parfaite si vous êtes en santé. C'est une unité qui chante à la fois une seule note. Ça, c'est la fonction vénusienne dans le monde. Bon, alors cette fonction vénusienne, elle est intérieure au Soleil. Elle unit tous ces astres d'une façon tellement étroite que nous ne pouvons pas, surtout avec notre aberration habituelle, surtout comme nous sommes hypnotisés par le monde extérieur et son mouvement tout le temps, nous n'avons pas le moyen et le temps et l'habitude, l'entraînement, de sentir à l'intérieur de nous-mêmes et de distinguer à l'intérieur de nous-mêmes ces différentes mesures d'une véritable énergie semblable, unique, mais enfin qui se distingue par différentes fonctions différentes. Voilà. Voilà ce que j'entends maintenant. Ce dessin, je crois, doit être extrêmement éloquent. À la planète extérieure correspond, dans une zone correspondante à l'intérieur de l'être, du Soleil, de l'âme. Et je n'en ai mis que trois. Ça suffit pour comprendre, parce qu'il faudrait mettre toutes les autres. Je mets toutes les autres. Alors, vous me direz, où est Mercure là-dedans? Et Mercure là-dedans, c'est précisément ce qui va être ici. Car pourquoi est-ce que ceci dépasse la périphérie du Soleil? C'est que précisément ici se crée la couronne du Soleil. La couronne du Soleil, vous voyez une couronne, c'est ça? C'est ça une couronne. Le principe de la couronne royale, mais ce n'est pas autre chose que le principe du Mercure, qui va et vient dans son mouvement autour du Soleil. Et cette sortie et entrée du mouvement de Mercure a créé, si l'on peut dire, la conception de la couronne du Soleil. La tête, c'est le Soleil. Sa couronne, c'est le Mercure. C'est sa lumière, en quelque sorte, sa lumière essentielle. Et c'est le futur Soleil qui finira par être là. Donc, dans le Mercure, c'est trouvé graduellement, constitué la somme de toutes les qualités planétaires externes que le Mercure du Soleil, mon intelligence, a assimilé par l'expérience de la vie dans 12 secteurs fondamentaux de la vie. Et alors, dans la mesure où il les a assimilés, ça signifiera qu'à la fin de sa vie, quand il ferme les yeux, c'est-à-dire quand il ferme l'intelligence, quand il coupe le contact avec le monde extérieur, automatiquement, à ce moment-là, ce Mercure possède exactement les qualités planétaires qu'il a absorbées, qui lui ont aidé, qu'il a absorbées du dehors. Celles du dedans se sont étendues à travers lui, et jamais autrement qu'à travers lui. Votre âme ne peut se développer, votre intelligence ne peut se développer qu'à travers les puissances de votre âme, il n'y a pas d'autre part. Et par conséquent, il est logique que le Mercure, à ce moment-là, étant le nouveau Soleil, a en lui-même toutes les planètes. Et les a, cette fois-ci, indéliblement, indissolublement, définitivement. Définitivement. Voilà la première notion sur laquelle je reviens. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a quelques années, la progression de la Lune, en progression secondaire directe de mon thème, est venue à la conjonction de mon Neptune radical et progressé. Progresser signifiait que j'allais en prendre conscience sur le plan externe. Progression de la Lune sur le Neptune radical, j'allais en prendre conscience par le plan intérieur à mon être. La progression de la Lune allant à la vitesse moyenne d'un degré par mois faisait que mon Neptune progressé n'était pas à plus de 1 degré de mon Neptune natal. Par conséquent, la Lune, en progression, a attrapé la progression de mon Neptune presque en même temps, ou peu après, ou enfin dans l'ordre même d'une activité continue, le mois que la Lune a passé là. Bon. Alors, j'ai eu une expérience spéciale. L'expérience était la suivante, je vous la donne aussi brièvement que possible. C'est un matin, en juin 1946, inoubliable d'ailleurs, où, dans une espèce de demi-sommeil, et dans une humeur, un état d'âme un peu particulier comme de juste, très préoccupé d'ailleurs de la signification de mes plumes, cherchant justement ce que c'était encore en profondeur la signification des grandes planètes collectives. D'un coup, vous connaissez le symbole de Neptune, je vous le rappelle pour mémoire, dans sa forme la plus simple, ce n'est pas le trident, dans sa forme la plus simple, c'est ça, le demi-cercle. Et cette ligne droite qui descend dans le monde, c'est la cité divine, c'est l'âme du monde, et tout ce qu'on voudra. Je ne reviens pas là-dessus. Je vais simplement montrer le rapport de la planète externe à la planète interne. Neptune dans mon thème. Non, le thème de tout le monde, c'est la planète externe. Et sa progression, c'est la planète externe. La progression de la Lune arrive là. Et qu'est-ce que je vois devant moi au petit jour, au pied de mon lit? Je devine que j'ai la coupe de la Lune au pied de mon lit. Je la devine, je ne la vois pas, mais je la devine. C'est une chose qu'on sent. Je devine que j'ai la coupe de la Lune comme un bol. Et l'instant d'après, je vois. Alors je vois. Je vois. Je sens que j'ai Neptune. Ah, aussi. Je sens que j'ai Neptune. Je sens que j'ai la coupe de la Lune. Je sens que j'ai ça. Je sens que j'ai ça. Et tout à coup, je vois ceci descendre dans ça. la voix descend. N'oublie jamais ce moment où cette verticale descend dans la coupe de la lune. Il ne s'agissait pas de savoir si elle, où elle s'arrêtait. Qu'est-ce qui se passait? C'était tout. Et la vision était finie. Mais que de choses que ça révélait du coup. Car ça révélait tout de suite, entre autres, que la fonction de la lune, natale ou progressée, transitante ou progressée, est précisément to draw out, de faire vivre, de faire venir à elle, d'étendre, de déployer l'énergie qui est potentielle, en attente, qui est statique, c'est de la fonctionnaliser. La progression de la Lune a fonctionnalisé Neptune. Mais attention, pour rentrer dans ce que j'ai dit ce soir et la semaine dernière, j'ai vu un Neptune devant moi. Ce Neptune, cette opération m'a été communiquée par un soleil qui, lui, s'est servi de ce Neptune dans mon thème. Car le Neptune de mon thème était fonction de liaison neptunienne à d'autres soleils. Ce n'était pas mon Neptune personnel. Mon Neptune personnel était dans mon soleil. Je n'aurais jamais reconnu ce Neptune dans mon thème, agité et mu et rendu vivant, puisqu'il est fonction de liaison sous la forme du Neptune. Il était fonction de liaison et on m'a rappelé, on me montrait la liaison neptunienne dans le cosmos. Et la mienne en particulier. Et mon Neptune intérieur l'a senti. Voilà. Parce que forcément, le Neptune extérieur, celui qui est dans le thème, correspond à l'astre que l'on voit dans les cieux, qui lui n'est que le terme, la station finale, dont la station initiale est dans le soleil. C'est ça. C'est ça. Il faut que l'astre soit en vous-même. Et puis en même temps, hors de vous-même. Car celui qui est en vous ne dépend pas du temps. Ah, lui ne dépend pas du temps. Vous êtes un degré d'intemporalité. Vous êtes un degré de présence éternelle, vous. Et tous vos astres à l'intérieur de vous sont des degrés de ça. C'est une position statique. C'est une position, en quelque sorte, si l'on veut, statique, c'est-à-dire elle n'est pas fonctionnelle, elle n'est pas, comment dirais-je, en mouvement. Elle est là, c'est l'être. Mais l'être, nous ne savons pas que nous sommes si nous ne faisons pas des échanges. La prise de conscience de l'être, c'est par l'échange de l'être, c'est le paradoxe de la vie. Le paradoxe fondamental de la vie, c'est toute la raison d'être de la conscience de l'être. L'être ne suffit pas. La condition même de l'être, telle que nous connaissons l'être, à la Terre, et certainement dans tout système planétaire, la loi doit être la même. Tel que nous connaissons l'être, tel que nous appréhendons l'être en nous, nous découvrons que nous ne saurions même pas que nous sommes en être, et qu'il n'y aurait pas ce dialogue avec nous-mêmes s'il n'y avait pas la conscience de l'être, et que la conscience de l'être ne vient pas de l'être. Mais elle vient d'un rapport avec autrui, c'est-à-dire avec autre être, ou avec autre chose, avec ce qui n'est pas cet être. Il n'est pas cet être, qu'on ne se fond pas avec le tout. Car se fondre simplement, au point de vue, en quelque sorte, purement grossier, de se fondre avec autrui, c'est perdre la conscience de l'être, et c'est même temps, par conséquent, quasiment perdre l'être, parce que nul ne peut se fondre avec autrui avant d'avoir atteint un sommet qui dépasse autrui et soi-même. On ne se fond avec personne horizontalement. On se fond avec un être supérieur par le grand principe triangle équilatéral. Donc, mon Neptune et sa progression, astre qui appartient à tout le monde, puisque son transit, passons là aussi, le transit passe, un transit passe, quand tous les transits appartiennent à tout le monde, je m'explique, les transits appartiennent à tout le monde en même temps. La Lune est dans la Vierge maintenant, la Lune pour tout le monde dans la Vierge. Quelle que soit la position de la Lune dans votre thème radical. Bien, Jupiter ce soir est en ce moment aussi en rétrogradation dans la Vierge. C'est le Jupiter pour tout le monde en rétrogradation dans la Vierge. Qu'est-ce que j'entends partout pour tout le monde? Bien s'entendre. L'horloge du temps jupitérien est la même pour tous. Absolument la même pour tous. C'est cette fameuse pluie qui tombe sur les bons et les méchants de la même façon. C'est ce soleil qui luit sur les bons et les méchants de la même façon et de la même quantité. C'est pour tout le monde la même chose. C'est le climat du moment général. C'est l'heure générale. Ça ne veut pas dire que le transit de la planète, qui est le même pour tous au point de vue de son temps, est le même en qualité pour tous. Non. Car ce qui transite, c'est le rapport à votre, la qualité de votre propre planète. Ça, c'est capital. Ça, c'est capital. Si vous avez dans un thème un Jupiter qui conjoint Pluton, par exemple, à la naissance, soyez très tranquille, comme vous n'avez pas le droit de considérer ce Jupiter en transit comme un véritable Jupiter avec toutes les puissances de Jupiter, ça n'est pas vrai. Il porte en lui-même cette blessure essentielle qu'est la conjonction de Pluton. Il la porte en lui-même, même dans son transit. Mais ça nous mènerait à autre chose. Je reviens à ça. J'ai encore beaucoup à dire là-dessus. Je ne fais vraiment maintenant qu'établir ce principe fondamental sur lequel je sais que vous avez beaucoup à méditer, car si je juge le nombre de méditations que j'ai fait là-dessus moi-même, après avoir fait pas mal d'années d'astrologie où ceci n'est même pas encore entré dans la tête, alors j'imagine le somme de méditations qui vous reste à faire vous-même, vous n'y avez pas pensé avant. Et quelle richesse vous allez en avoir. Quelle richesse vous allez en avoir. Et je répète encore une fois, quelque autre être, quelque autre soleil, par l'emploi de son mercure, parce que le soleil ne peut pas faire autrement que d'employer son mercure. Quand le soleil s'anime, qu'est-ce qu'il anime? Il anime son intelligence. Voulez-vous qu'il anime d'autres? Quand il aime le soleil, car c'est le soleil qui aime, n'est-ce pas? La maison du lion, c'est la maison de l'amour. Et là, j'y viendrai tout à l'heure, quand je montrerai la fonction de relation qu'est la cinquième maison par rapport au soleil et mercure, qui est nous vraiment, alors. Bien, l'amour, bien sûr, ça c'est le soleil, mais même ça ne peut pas fonctionner sans l'intelligence. Sans une qualité, une certaine intelligence, c'est l'œil de la cinquième maison qui est là, en quelque sorte, fondu avec l'âme du soleil, qui va rayonner maintenant. Il va rayonner, car la cinquième maison, c'est le rayonnement solaire. Sur tous les plans d'un rayonnement, avec une extraordinaire immédiateté, où on peut dire que son intelligence se fond avec son cœur. Et quand même, il y a la distinction. Puisqu'il articule son amour, puisqu'il le qualifie son amour, c'est qu'il emploie donc son intelligence, donc son intelligence. Donc l'œil de la cinquième maison. Car l'œil, c'est l'intelligence et c'est le mercure. Et nous avons 12 yeux pour les 12 maison astrologique. Et cet œil est animé toujours par le soleil, par l'âme qui est derrière. C'est l'âme qui se porte sur la maison. C'est votre soleil, ce n'est pas des planètes qui se portent dans vos maisons. C'est votre soleil qui se porte dans la maison. Et il anime l'œil, comme notre œil est animé par notre être tout le temps. Et c'est ça qui vient là. Et la planète maîtresse de la maison, celle qui est externe, correspondant à celle qui est interne, va maintenant procurer les éléments de contemplation et d'expérience pour le mercure du soleil porté par la vie du soleil dans cette maison-là. Je pourrais peut-être prendre à titre d'exemple encore ce que nous avons vu à Paris cette semaine, la présence d'une jeune femme anglaise qui est présentée à nous comme une reine. En réalité, prenons donc le passage à Paris de la reine d'Angleterre. Si vous voulez bien, l'image psychologiquement et pédagogiquement est la même. Vous voyez une procession de la Sainte Vierge descendant dans un village, dans une ville, au Mexique, si vous voulez, possession de la Vierge. C'est une statue. Ce n'est pas une personne. Que signifie cette procession de la Vierge? Que signifie le passage d'une reine à Paris? Croyez-vous qu'il y a eu une reine à Paris? Non. Croyez-vous qu'il y a eu la Sainte Vierge? À quelque degré que ce soit dans la procession de la Vierge? Croyez-vous même que si c'était la Vierge en présence elle-même qui passait dans la procession, il s'agissait vraiment de la Vierge? Non. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus profond et plus intime. Il s'agissait de faire vivre la Vierge qui est au fond de l'air. Et donc, ces jours de Paris où cette jeune femme reine d'Angleterre a passé, chacun a vécu inconsciemment la reine qui est au fond de sa propre âme. Et c'est précisément cette reine au fond de sa propre âme qui lui a fait sentir et qui lui a fait vivre quelque chose de royal en lui-même, qui lui a permis d'apprécier ce qu'il y avait donc dans la fonction et les obligations de la royauté dans une jeune femme. Il faut de l'imagination pour apprécier n'importe quoi. Il faut une imagination incroyable pour apprécier la présence d'une apparition de la Sainte Vierge, sans parler de sa statue. Croyez-vous que les saints ne soient pas les êtres qui ont le plus d'imagination authentique? Ceux qui l'ont le plus. Ce sont les plus grands artistes. Si nous n'avons pas l'image montant de nous-mêmes, qui donne une richesse devant nos yeux à la chose qui nous est offerte par gageure au-dehors de nous. La chose au-dehors de nous, nous ne la voyons pas. Nous la regardons, mais nous ne la voyons pas. Voir, c'est la réponse de l'âme à l'objet qui se pose devant nous. Que des fois, on regarde une personne dans la figure, quand on la connaît bien d'ailleurs, on la regarde dans la figure, on la passe sur le trottoir et on ne la voit pas, donc on la salue. Et indéniablement, physiquement, on l'a vu, mais on ne l'a pas vu avec le soleil. Et toute la pédagogie de la descente des forces spirituelles aux hommes, d'ailleurs toute l'imagerie sacrée, n'est pas autre chose que la loi en opération de ce fait. Il ne s'agit pas tellement de nous apporter des éléments extérieurs qui ne seraient nuls pour nous s'ils nous sont totalement étrangers, mais c'est surtout de réveiller leur équivalent en nous-mêmes. Les planètes dans le thème réveillent les équivalents dans l'âme du soleil. Voilà la première partie de la démonstration que je voulais faire ce soir. Maintenant, entrons dans la partie technique de ça, le détail. Voyons comment ça joue. Voyons comment ça joue de maison en maison. J'ai dit l'autre jour que la sixième maison, c'est la maison de Mercure. Donc, elle est vraiment bien à vous. Autant que Mercure et vous est bien à vous, car, n'est-ce pas, vous ne dites pas « je suis l'intelligence ». Vous dites « j'ai de l'intelligence ». Vous employez quand même l'auxiliaire avoir pour votre intelligence, tant vous la sentez encore dans un état de création. Donc, elle n'est pas une chose vraiment. Mais l'être, vous l'êtes, et vous ne pensez pas que vous avez l'être, vous êtes l'être. C'est lui qui a l'intelligence. Eh bien, c'est ainsi que nous avons le corps du je transcendantal qu'est le soleil. C'est la Vierge, ça, c'est la sixième maison. C'est la constitution du corps humain. C'est donc la chose la plus immédiate. Comme le veut bien l'intelligence, n'est-ce pas? C'est la chose qu'on voit le plus proche de l'être. La chose la plus proche de votre être, c'est votre corps. C'est la liaison la plus immédiate avec l'ambiant. Il vous faut entre l'être et l'ambiant quelque chose, ce sera toujours Mercure, et la première des choses que Mercure nous apporte là, c'est le corps. C'est la synthèse, d'ailleurs, de toutes les capacités de compréhension l'action de votre milieu au niveau le plus immédiat. L'intelligence qu'il y a dans le fonctionnement d'un organe, l'intelligence, oh, une intelligence qu'on n'avait pas à travailler par la volonté, ça se fait tout seul par une sorte d'automatisme, si vous voulez. Ce n'est pas un automatisme par ce qu'on appelle l'habitude. Mais la Vierge, c'est aussi l'habitude. C'est la grande chose précieuse de l'habitude. C'est la chose établie. On ne sait pas comment, on ne peut pas commander le battement du cœur, la péristase de l'intestin. On ne peut pas commander le filtrage des reins. Ça se fait à notre insu. Mais ne croyez pas que ça soit toujours fait à notre insu. Il y a eu un temps où l'âme a parfaitement compris ce qu'il fallait qu'elle monte comme un grand ingénieur. Devoir s'adapter aux exigences du milieu dans lequel l'âme voulait. Comme une pure matière, comme nous avons beaucoup de peine à considérer la soi-disant pure matière comme étant de l'esprit. Or, tout est forcément de l'esprit. La matière aussi, c'est un des noms qu'on lui donne, c'est tout. Parlons plutôt d'atomes, alors. Parlons de structure de vie. Parlons de degrés de vie. Tout ce qu'on voudra, infinitésimaux, tout ce qu'on voudra. Mais c'est quand même la vie. Tout est. Tout est, vous entendez. L'atome est, la pierre est, la molécule est, l'astre est, tout ça c'est la vie. Est. Donc, le mercure de troisième maison, voilà le gémeau de nouveau. Les trois maisons que commande votre être personnel, c'est 5, 3, 6. Alors, dans les gémeaux, c'est la perception nouvelle de rapport de nécessité immédiate. La sixième maison, ce sont les perceptions anciennes des rapports de nécessité immédiate de l'être, du soleil. Le mercure du Gémeaux, c'est celui qui se bat, c'est le système nerveux volontaire, c'est celui qui pense avec concentration. C'est celui que l'on part sur son objet. Et son essence du Gémeaux, c'est la perception nouvelle de nécessité première, c'est-à-dire des nécessités immédiates à l'être. Car la religion n'est pas une nécessité immédiate de l'être. C'est une nécessité médiate. Elle est une nécessité en plus loin. Mais le corps, c'est la nécessité immédiate. Et sur cette nécessité immédiate, qui nous expliquera quand on l'analyse la raison du corps humain. Pourquoi est-ce que l'âme a un corps ou est dans un corps ou avec un corps, peu importe. Pourquoi? Ah, mais là, nous entrons dans un drame cosmique, parce que ça c'est vrai partout. C'est vrai pour les astres. Et je crois que j'aurai l'occasion d'en parler justement au mois de mai. En prenant de nouveau cette notion du monde extérieur, du monde combattant, et du monde intérieur, du monde triomphant. Il y a deux mondes, le monde triomphant à l'intérieur, le monde combattant à l'extérieur, et nous sommes interposés entre les deux. Et nous sommes fonction d'échange et de relation entre les deux. Et dans ce sens, spécifiquement, l'homme est certainement, comme disait Kaiserling, dans une de ses grandes spéculations, l'homme est une relation. Donc, j'ai pris ici la fonction de l'intelligence, le mercure, cette fonction-là, qui fait, c'est ça le corps,
Le nouveau corps, c'est le mercure des Gémeaux qui le fait. Le corps tel qu'il a été établi de droit, c'est le mercure de la Vierge, qui est déjà une stabilisation, qui est déjà un grenier, qui est déjà une synthèse de toutes les perceptions des nécessités immédiates, tandis que le mercure des Gémeaux procède par la loi d'analyse et va du particulier au général. Le général, ici, c'est le mercure de la Vierge. Et voilà pourquoi Mercure est exalté dans la Vierge. Mais ça, c'est une autre histoire. Passons maintenant. Regardez, le soleil maintenant est maître du 5. Regardez bien ce qu'il fait là. Il est le maître du 5. Vous entendez, il ne va pas dépendre d'une planète extérieure. Il ne va pas dépendre d'une fonction de liaison. Là. Il y aurait encore à dire quelque chose là-dessus, mais ce serait trop loin. Là, il se répond lui-même dans l'immédiateté absolue. C'est l'amour dans son immédiateté absolue. Mais, quelle est la différence alors entre ça, qui presque est une suppression de l'intelligence, le manque de union, le soleil à soleil, cinquième c'est soleil à soleil, c'est âme à âme. Mais quelle est la différence entre l'union de l'âme à l'âme en 5 et l'union de l'âme à l'âme en 12? Tout est là. Il y a la grande union d'âme à âme, elle est de soleil à soleil maintenant. Elle est en 12. Pourquoi la 12e maison est la maison des grands silences et des grandes paix? Pourquoi la 12 est la maison de la grande, la sécurité infinie, de l'harmonie infinie et du sens de l'éternel? Pourquoi est-ce que la musique, la grande musique religieuse, la grande musique des grands compositeurs, nous place automatiquement dans un état de 12e maison? C'est qui est placé? C'est notre soleil. Pourquoi est-ce qu'il fait cette expérience en 12 et jamais d'ailleurs, il ne la fera jamais en 5? Jamais! Il l'a fait en 12 parce qu'en 12, il est en communion étroite, intime avec d'autres soleils. D'autres soleils qui sont plus grands que lui, mais qui sont un avec lui, qui font partie d'une collectivité commune et centrée sur un soleil encore supérieur à eux. C'est la fleur de, c'est le noyau, c'est la fleur de lotus, pour employer cette image chinoise, n'est-ce pas? Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans la 12e maison, c'est que votre soleil, votre âme, là, n'est plus une partie de ce soleil qui se donne. C'est la totalité du soleil qui est pris. Et voilà pourquoi le signe des poissons qui représente l'union de deux soleils, pas autre chose, pas une des fonctions du poisson, représente la liaison de ces deux par le fameux ruban dans la tradition, le ruban de Vénus. Vénus exaltée dans les poissons lorsqu'elle n'est plus nécessaire, lorsque l'union est achevée, il n'y a plus besoin de la fonction vénusienne, les deux soleils sont un. Or, cette expérience d'unité en 12, qui est l'expérience religieuse la plus authentique et la seule vraiment authentique, quel que soit le degré dans lequel on la vit, cette expérience, elle ne se peut faire qu'en 12, parce qu'en 12, c'est la totalité de votre soleil, c'est ça. Lui, en tant qu'il est un tout, qui est en échange avec un soleil en tant que lui aussi est un tout. Et avec plusieurs soleils, les uns dans les autres, en profondeur les uns des autres, en tant que tous sont des tout, dont le don est total et simultané. Tandis que, en cinquième maison, votre soleil, alors c'est lui seul, là. Et bien entendu, il est en rapport avec le mercure, l'intelligence et surtout le soleil d'un autre être. Mais ce n'est pas la totalité de l'union sainte, c'est la partie. C'est une nouvelle ou un prolongement d'une expérience qui n'est pas achevée. En 12, elles sont achevées. C'est une apothéose, la 12e. L'union en 12 des soleils, c'est une apothéose. En 5, ça peut être un début, ou ça peut être la deuxième ou la troisième étape d'un cheminement qui aboutira un jour à la valeur de la 12.
Dans la deuxième, tout est intérieur, tout est au-dedans. Tout ça, c'est la remontée dans les hiérarchies internes des valeurs de la vie. Mais en cinq, tout est en dehors. C'est ce que l'on a par obligation de l'incarnation, c'est par la stratégie de l'incarnation, par la position de l'être dans un monde pour lequel il lui faut un corps pour se faire la première relation à ce monde. Eh bien, c'est un monde dans lequel il n'attrape jamais rien dans ce monde. Le soleil n'attrape jamais rien tout à la fois. Il ne prend rien tout à la fois, il les prend par succession, par bout. Il faut qu'ils prennent les choses d'heure en heure, une heure pour ci, une heure pour ça, une personne puis une autre, un objet et un autre, mais en 12, on ne prend rien par l'heure. L'heure n'existe plus, le temps n'existe plus en 12. C'est une totalité, c'est une unité. On ne découpe rien dans la 12, on sort du temps. Lorsque vous faites vraiment une expérience authentique et vitale de la 12e maison, vous êtes sorti du temps. Vous êtes dans un moment d'unité. Immédiatement par ta qualité et la présence de l'Éternel. Mais jamais la présence de l'Éternel en cinq. Or, en cinq, on cherche l'Éternel et on en attrape une heure, puis une autre, puis une autre. On accumule des heures, donc le temps marchant à l'Éternel. Et voilà pourquoi le chaotement, le tâtonnement, les refoulements, les explosions de l'amour en soleil en cinquième maison. C'est que dans le thème, le dispositif des symboles, du symbole de la croix, veut que seulement dans deux maisons, la 11 et la 12, celles que commandent le Verseau et le Poisson, celles que commandent Uranus et Neptune, c'est seulement là que gît l'expérience pour notre soleil unique et individuel, de se partager, de s'identifier, de se fondre avec, de s'unir surtout avec le collectif supérieur à lui-même. Et comme nous ne voulons jamais vivre que pour nous-mêmes, et que nous voulons toujours nous dépasser ou être pris dans quelque chose de plus grand que nous, comme nous nous estimons quand même avoir le droit d'être acceptés par quelque chose de plus grand que nous, et la religion n'est pas autre chose que ça, c'est l'instinct qu'on appartient de droit à quelque chose de plus grand que nous, jamais de plus petit. Par conséquent, en maison 11 et 12, nous appartenons tout à coup à la collectivité d'âmes, le soleil, plus grand que nous, mais qui sont toujours une collectivité intégrée par nos racines à notre propre soleil. Et nous n'y entrons qu'à dans ces deux maisons-là. Nous y entrons vraiment dans cette expérience. Notre mercure, notre intelligence n'y entre que dans ces deux maisons-là. Par conséquent, les expériences fondamentales du Verseau et du Poisson sont des expériences l'une précédant l'autre, le Verseau n'étant pas autre chose qu'en quelque sorte la moitié de la valeur du Poisson. C'est là où je trouve le rapport supérieur. Et par conséquent, si vous regardez ainsi la fonction des maisons, leur hiérarchie de valeur, vous verrez que dans les maisons, ici dessous, et jusqu'à ce qu'on arrive au Capricorne, c'est-à-dire au milieu du ciel, c'est toujours une partie de l'être qui est engagée. Partie, qu'elle soit grande ou petite, peu importe, ce n'est qu'une partie de l'être. C'est une découpe. Et du moment que c'est une découpe, c'est toujours le temps qui entre en jeu. Mais le seul endroit où la découpe diminue énormément, où elle va en s'épuisant, c'est dans le Verseau, parce que nous entrons maintenant dans cette sensation d'être toute l'espèce en nous-mêmes et d'avoir nous-mêmes dans toute l'espèce. Je suis dans tous les hommes et tous les hommes sont en moi. Quand ça est vécu, nous n'arrivons pas encore à la grande expérience centrale mystique de 12, mais nous en sommes au péristyle. En 12, alors, carrément, on sort du temps en nous, car on atteint l'apothéose de l'évolution, l'âme individuelle. Là, nous sommes dans le collectif, et le collectif révèle tout son jeu, et toute son intention, et toute sa stratégie, et toutes ses lois, et toutes ses obligations, et tous ses pouvoirs sur le soleil individuel.
Vous remarquerez, si vous analysez bien de quoi vous êtes fait, vous remarquerez que le sens du temps et la façon dont le temps est employé, la façon dont le temps est découpé. Or, qu'est-ce que c'est qu'une découpure du temps, sinon pas une découpure de votre attention, vous, le soleil, par votre mercure qui est découpée en 12. Ce sont des découpures de votre être qui vont ici, qui vont là, d'heure en heure. Et chaque fois que la découpure change, il y a des moments où vous vous sentez comme un autre soleil, un autre être, quand votre regard est là, plus que quand il est là. Mais vous remarquerez que les maisons dessous l'horizon sont des maisons où nous découpons le temps beaucoup plus fréquemment et il nous paraît nécessairement par addition beaucoup plus long que lorsque nous sommes au-dessus de l'horizon, où nous entrons maintenant dans les profondeurs des valeurs de la vie du soleil. Les valeurs en profondeur de la vie de l'être commencent en 7. Nous sortons des premières nécessités de l'immédiat. Soit intérieur, soit extérieur, nous en sortons. Et dès que nous en sommes sortis, alors le temps, comme on dit vulgairement, passe vite. En tout cas, il passe plus vite. Et la découpure se fait sur un éventail ou un arc beaucoup plus grand. Jamais minutieux comme ça. Mais pas de toutes petites tranches à la seconde ou à la minute. C'est des tranches en heure, c'est des tranches en jour. Je vise une chose en 7, je vise une chose en 9, surtout en 9. Même en 8, je vis une chose en 10 qui peut avoir vécu quelques minutes seulement, mais qui m'a semblé une éternité, ou enfin très long. Et d'autres fois, je peux vivre quelque chose qui va me demander un temps immense pour que j'aie le sentiment que je l'ai actuellement bouclé, achevé. On n'a pas le sentiment rapidement d'un achèvement des fonctions de l'intelligence et du soleil dans les maisons sous l'horizon. La découpure et la servitude au sens du temps est beaucoup plus aiguë. Mais là au-dessus, la respiration s'est faite à un battement beaucoup plus lent. Et si nous mesurons l'existence du temps, si nous sommes conscients de la réalité du temps par la respiration d'un être, bien nous pouvons dire que nous respirons d'une façon haletante ici, d'une façon régulière ici, et ici nous ne respirons pas. Donc, même plus besoin de respirer. Cette respiration est extrêmement lente. Et je crois que c'est une des raisons, incidemment, pour laquelle, dans les très grandes expériences mystiques, celles qui sont de toute paix et de toute sérénité, je suis certain que la circulation du sang et que le battement du pouls et que le mouvement de la respiration est extrêmement lent. Maintenant, vous avez commencé à comprendre où je vous mène. Dire que ces astres sont à l'intérieur de vous, qu'elles sont absolument maintenant, par la fonction vénusienne, fondues en quelque sorte en une seule unité, c'est dire que là, vous êtes intemporel et que là, vous êtes libre du temps. Et étant libre du temps, vous êtes vraiment libre. Car la seule chose donc qui constitue notre déterminisme, notre fatalisme, c'est précisément d'être subordonné au mouvement du temps. Donc ici, nous sommes subordonnés par les planètes extérieures et les maisons qu'elles commandent. Les maisons qu'elles commandent, c'est précisément ces bras de croix, car nous voulons grandir. Mon Dieu, il y a quelque chose en nous qui nous pousse à grandir. Il nous en donne l'obligation, nous grandissons, mais nous avons dépassé tout ça. Nous sommes déjà là entièrement libres, puisque nous n'avons plus de croix, mais nous nous sommes donné une croix ici en sortie, c'est là l'incarnation. Nous sommes donné une croix, nous voulons pousser encore, et pour chacun de ces bras de croix, il nous faut une planète extérieure, ici Mars pour la première maison, ici Vénus pour la deuxième, et ainsi de suite. Alors c'est la planète extérieure qui va nous dire comment ceci doit Puisque nous ne pouvons grandir qu'à condition d'entrer dans quelque chose qui n'est pas nous, nous n'entrons pas dans le vide. Grandir, s'étendre, ce n'est pas aller dans le vide, il n'y a pas de vide. Oh, ça c'est une vaste blague, il n'y a pas de vide. Vous ne pouvez sortir de vous qu'en entrant dans quelque chose d'autre. Alors, la qualité de ce que vous entrez dedans, l'objet, etc., va être déterminée par la fonction qu'on appelle la planète extérieure, et celle donc qu'on voit dans le ciel. Ainsi, passons maintenant à la maison 1, qu'on appelle le bélier. Et naturellement, normalement, c'est Mars, la maison martienne. Mars commande la première maison. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que là, le soleil, c'est toujours le soleil. Il n'y a que le soleil qui vit dans votre tête. Et il n'y a que lui qui vous fait sentir l'existence des autres êtres en répondant à eux par la porte de vos maisons. Vous êtes beaucoup moins conscient des autres que vous êtes conscient de la façon dont vous êtes conscient d'eux en vous-même. Les gens ne sont que des miroirs de ce qu'ils sont éternellement déjà en nous-mêmes. Et alors la première maison, c'est la première prise de conscience de l'intelligence. C'est l'œil qui s'ouvre. La maison est un œil, ne l'oubliez jamais. La maison, c'est le développement du mercure du soleil. Je dois répéter ça peut-être un peu à satiété, mais il faut que ça entre. Parce que si vous n'y avez jamais pensé, il y a des tas de choses dans le thème auxquelles vous n'avez pas encore pensé, qu'un jour vous y penserez, un jour vous direz, vous entendrez d'autres vous dire, on ne comprend plus rien en astrologie, ça va, on comprend. Et puis vous direz tout le coup, je me rappelle les conférences de M. Bougas, qu'est-ce que ça nous a éclairé sur ce sujet, et on a comme ça autant de transpiration de moins. Voyez bien que tout ça est sorti de terribles transpirations. Ça paraît pour vous tout simple, peut-être ce soir, et pour moi ça paraît tout simple, mais croyez que ça n'était pas tout simple à l'origine. Rien n'est donné dans ce monde, rien n'est gratuit. Donc, première maison, c'est l'aurore, c'est le lever de la lumière. Or, à la levée de la lumière, que fait l'œil? Il s'ouvre. Cette première ouverture de l'œil du soleil, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience de ce qui n'est pas lui, de la distinction qu'il y a à faire entre ce qui n'est pas lui et lui. Car il ne veut pas qu'on soit la réalisation de quelque chose qui n'est pas lui sans qu'immédiatement il ait la réalisation qu'il est lui-même. Les deux choses vont ensemble. Le bélier, c'est ça. La façon dont la première prise de conscience se fait, le premier mercure qui ouvre ses yeux. Le bélier, donc, c'est un mercure qui ouvre ses yeux. Et qui, soutenu tout de suite par une action qu'on appelle la fonction martienne, c'est-à-dire une initiative, une attaque, des choses qui lui font une résistance dans l'immédiat de lui-même. Alors, le mercure suit le mouvement de cette planète Mars extérieure à lui, et le Mars intérieur répond, et le Mars intérieur répond, et alors le Soleil par le Mars intérieur passe ça au mercure, et le mercure est très débrouillard, ou pas débrouillard, lorsque le matin on se lève, et qu'on commence à devoir se secouer de la nuit et de se mettre aux premiers travaux de la journée. Il y a toujours du mercure. Jamais vous n'en sortirez. Et la seule chose qui anime la maison, là, c'est le soleil. La façon dont une personne a beaucoup de peine à se réveiller, pendant une heure, elle est non coordonnée. Qu'elle mélange, qu'elle dit tard pour tard, qu'elle met le lait dans la cafetière et le café dans la laitière, dans le poêle, toutes ces choses-là, n'est-ce pas, qu'elle renverse des objets, tout ça est dû à une combinaison Mars-Mercure. Mars parce que c'est la première prise de conscience, non, Mercure parce que c'est la première prise de conscience, et Mars parce que c'est cette énergie sortant de l'être solaire. Si le Mars est en déficience, si le mercure du thème est en déficience, ne vous étonnez pas si le matin, vous avez beaucoup de peine à vous sentir réadapté normalement à la vie. Passons maintenant à la maison, à la maison 11. La maison 11, ce sont les amis, c'est le Verseau. Oh, mais c'est plus que les amis, naturellement. Les amis, c'est beaucoup plus. Il y a amis et amis. Et la sociologie exige des définitions qui soient implacablement exactes, et ils ne le seront jamais. Il faut les serrer de plus en plus près, les serrer de plus en plus près. La 11e maison représente le soleil mené par la planète Uranus qui lui ouvre tout à coup devant lui les soleils qui sont de la même coupe que lui. Soleils qui sont sur la Terre comme lui, soleils qui sont dans l'invisible, comme il a une partie dans l'invisible lui-même, dans le monde intérieur. Là, dans sa 11e maison, il reconnaît des êtres dont il n'exige rien, dont il n'est jamais jaloux, parce qu'il a dépassé la partie solaire de 5. Il est à la moitié de la fin de l'évolution de l'être solaire à la porte de sa 12e maison. L'amitié, c'est une demi-religion. La religion, si vous voulez, par inversion, c'est une amitié absolue, totale. Et, comme en 5, le soleil n'a pu donner qu'une partie minime de lui-même à un autre soleil ou à d'autres soleils, en 11, il donne plus que la moitié de lui-même. Et il la donne. Et au fond, le désir qui représente l'objet de la 11e maison, puisqu'on dit souvent dans les livres, c'est la maison des vœux et des désirs, ce qui est une phrase atrocement banale et atrocement superficielle, signifie, mais oui, mais ce sont les vœux. Ce sont les vœux de quoi? Ce sont les vœux sociaux. Ce sont des vœux sociaux, ce sont les vœux de société. Et c'est ces vœux de société... De société et d'échanges humains à parité de valeurs et dans la liberté de l'esprit. Puisque là, le temps devient de moins en moins important et que la possession n'existe presque plus. Or, pour atteindre ça, il faut d'abord passer la maison 10. Et la maison 10, c'est donc le Capricorne. Et donc, le grand prince de ça. C'est la planète Saturne, et c'est le Saturne intérieur qui maintenant va dire au Saturne extérieur, eh bien maintenant, Saturne extérieur, prends-moi en main, je tiens à ce que je m'étende moi-même davantage, apporte-moi des objets, des circonstances, des gens, des situations qui vont me permettre de faire valoir ce que je suis dans l'intérieur du Soleil, et comme la 10e maison, c'est la maison de la majorité, c'est-à-dire que c'est le moment, maintenant où l'on devient majeur, c'est le moment où la formation est définitive de l'être individuel, que le soleil a atteint maintenant une nouvelle forme ou un nouveau moule de conscience de lui-même et donc par ça de son ambiance. Dans la 10e maison, il entre dans le monde social. Le monde de l'humanité, c'est pas dans le monde des animaux qu'il en grandit. Il se fait accepter par ses contemporains et il les accepte sur un pied d'égalité. Comment il va s'insérer dans le cadre, dans les situations que seuls ses contemporains peuvent lui offrir, sous la forme la plus personnelle ou la moins personnelle, peu importe, la façon dont il va aboutir à ça, s'aboucher à ça, s'insérer là-dedans, être reconnu et reconnaître tour à tour, la façon dont il va savoir rester lui-même tout en étant bien avec le monde et que le monde ne le mange pas et que lui ne mange pas le monde. Il y a l'échange suprême de l'équilibre, de la loi de compensation de Saturne. Le moment qu'il est capable de ça, il est mûr, il est adulte, il est formé et à ce moment-là, il peut entrer, il peut apprécier. Il peut être digne de ce qu'on appelle les libertés des enfants de Dieu, c'est-à-dire de ses frères, c'est-à-dire du verso 11e maison. Pas avant. Nul n'entre en verso s'il n'est pas adulte. Pas possible. Il ne s'est pas mis au clair avec Il n'a pas fait déjà un stock ou un inventaire de son soleil personnel. Qu'il ne l'a pas tâté dans tous les échanges jusqu'à ce qu'il ait trouvé sa position centrale. Sa position authentique. Voilà pour la position du Verseau. Incidemment, puisque nous sommes au Verseau, quelque chose de très important vient d'arriver hier. Quelque chose de capital, de très capital. C'est une très grande date hier. Hier, Uranus est devenu direct. J'avais senti cette nuit. J'ai même senti toute la journée. Et cette nuit, je savais. Uranus direct pour nous tous. Depuis l'automne, il était rétrograde. Donc, vous voulez dire la rétrogradation d'Uranus? Je voulais dire que, après nous avoir versé l'eau dont je parlais tout à l'heure, pendant tout l'été dernier jusqu'à l'arrière-automne, il a cessé de verser l'eau. C'est comme si le verseur d'eau s'est dit, maintenant, j'en ai versé assez sur la plante, je la conserve ici, maintenant. Peut-être, je la conserve, je la garde. Je vais laisser cette eau entrer dans la terre, nourrir cet arbre. Il ne faudrait pas noyer les racines, n'est-ce pas? Or, sachez bien que si Uranus, son mouvement, n'était pas quelquefois rétrograde, on noierait les racines de l'homme. Certaines racines, certains façons de notre soleil seraient liées à d'autres. Il y aurait là, oui, ce serait simplement le mot, noyer. Il faut l'arrêt momentané. La constitution même de la position de la planète Terre, le battement de la vie sur la planète Terre, le battement des échanges de toutes les formes des soleils sur la planète Terre, qui est elle-même un soleil formidable, dont nous sommes des parties, il faut que ce battement connaisse des espèces de suspensions momentanées que sont les rétrogradations du planète. Et celle-ci qui nous a donné son eau jusqu'à l'automne, c'est arrêté de nous donner. Oh, c'est carrément arrêté. Oh, c'est l'arrêt total. Une planète en rétrogradation.